Troisième partie de cette table ronde. Marion, on vous laisse la parole.
Merci beaucoup. On m'entend ? Oui. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci Romane et puis l'ensemble des organisateurs et organisatrices pour cette conférence et de m'avoir proposé d'intervenir. Alors effectivement, ce que je vais vous présenter, en fait, sont tirés notamment de mes enquêtes donc en sociologie auprès de chercheurs et chercheuses dont les capacités visuelles et ou auditives sont altérées de manière significative, ce qui, notamment si la situation est inaccessible, les met en situation de handicap. Donc cette enquête, je l'amène depuis 2019 et par ailleurs, je suis moi-même concernée par une altération visuelle significative. Et donc je vais aussi, c'est aussi tiré de mes propres expériences. Tout ce que je vais vous présenter ici, c'est pas tellement ni vocation d'être exhaustif, ni une sorte de notice à absolument suivre. En fait, ce qui est important, c'est déjà de comprendre comment les personnes concernées par notamment des handicaps visuels et auditifs travaillent et lisent les éditions scientifiques, voire y contribuent. Mais aussi comment ils peuvent trouver des solutions et surtout être attentifs à leurs besoins, parce que comme l'ont évoqué mes deux collègues qui m'ont précédé, effectivement, l'accessibilité est très spécifique à chaque personne. Et donc, certaines choses dont je vais parler ici qui ne concernent pas d'autres et des besoins que j'aurais oubliés ou que j'aurais pas évoqués ici. Il faut bien comprendre que donc les chercheurs et les chercheuses concernés qui peuvent vous lire ou contribuer, ils ont accès déjà à différents outils. Certains peuvent... Alors je vais prendre principalement le handicap visuel là pour simplifier. Certains peuvent être braillistes, donc écrire et lire en braille. Certains autres, non. Certains peuvent lire... lire en synthèse vocale et écrire en dictée vocale. Certains peuvent lire aussi, alors ce qu'on appelle en noir dans les milieux concernés, c'est la lecture visuelle, soit en grossissant, etc. Avec différents logiciels qui sont plus ou moins performants qui rendent plus ou moins accessibles certains contenus. Je vais d'abord parler de évidemment, le travail de chercheur implique de lire, d'écrire et d'analyser. Pour lire d'abord, il faut effectivement, mes deux collègues en ont parlé, mais avoir des sites accessibles. Et pour bien comprendre ce qu'on appelle site accessible, c'est par exemple quand on vous demande de coder, par exemple, les titres, les sous-titres, ça a un intérêt. Alors, pour les lecteurs d'écran, ça a un intérêt que plutôt que de relire toute la page en entier, tout le temps, il y a des manières de, si le site est bien codé, d'aller de titre en titre, de sous-titre en sous-titre, de lien en lien. C'est pour ça que c'est important, enfin ça doit être une charge de travail lourde pour vous, mais c'est important que ce site soit précisément bien codé pour permettre les lecteurs d'écran de comprendre comment, en fait, les lecteurs d'écran et aussi les lecteurs en braille, pour comprendre en fait comment la structure du site et des articles sont faits. Il arrive aussi que certains chercheurs et chercheuses accèdent à des auxiliaires de travail ou des collègues de travail pour accéder à certains ouvrages, notamment certains ouvrages papier. Et ça, je vais bien un petit temps quand j'arrive à 10 minutes, un petit signe.
D'accord, super.
Ça, il faut bien se rendre compte que toutes ces procédures, que ce soit les outils ou l'accès à des collègues ou des auxiliaires de travail, prennent du temps, soit par des procédures administratives, avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et du coup un aménagement de poste qu'il faut renouveler régulièrement, avec parfois des changements de prestataire, des outils qui peuvent tomber en panne, ou qui font cramer les ordinateurs. Et donc tout ça alourdit encore plus la charge qui est sur les épaules du chercheur ou de la chercheuse là, face à des situations handicapantes. Et c'est un peu mon deuxième point. Je pourrais parler de toutes les manières de travailler des chercheurs et des chercheuses que j'ai rencontrées. Mais déjà, ce serait vraiment du cas par cas. Et encore une fois, si une personne concernée vous contacte, soit parce qu'il contribue à vos éditions, soit parce qu'il souhaite accéder à un article, ou un ouvrage, partez vraiment de ses besoins spécifiques, ce qu'on appelle le savoir expérientiel, parce que la personne la plus experte de la façon dont elle travaille, ou dont ce texte lui sera accessible, sera la personne concernée. Mais ce qu'il faut savoir, et ça souvent les personnes concernées ne se rendent pas compte que en fait, c'est transversal à toutes les personnes concernées par des situations, enfin qui font face à des situations handicapantes de manière récurrente, c'est la notion de CRIP time, donc c'est des temporalités, donc CRIP c'est C-R-I-P, je vais expliquer ce à quoi ça fait référence. Donc c'est des temporalités spécifiques des personnes concernées enfin qui font face à des situations handicapantes de manière récurrente. Le CRIP time, donc ça vient du mot cripple, qui était la façon de désigner les personnes handicapées avant. Donc c'était infirme ou estropié, et les communautés militantes, notamment aux États-Unis, se sont réappropriées ce terme, et on a été créé la creep culture, la creep communities, et différentes notions que les personnes concernées éprouvaient. Donc c'est à tous les handicaps confondus. Cette notion, j'aurais pas du tout le temps de la présenter de manière plus profonde ici. Alors, si vous êtes réticent aux notions anglaises, je vous propose une traduction qui est temporalité handy. Et ceux qui ne sont pas convaincus par cette traduction, revenez à CRIP time. Elle se traduit alors de plein de manières différentes, mais si je prends précisément comment elle est éprouvée par les chercheurs et les chercheuses en situation de handicap, elle est éprouvée déjà parce que même face à un livre accessible, ça va leur prendre plus de temps, sans compter le temps de procédure pour accéder au livre accessible. La lecture, l'attention que ça va leur demander prend plus de temps. Par ailleurs, c'est une temporalité un peu spécifique, c'est qu'ils ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Ils ne peuvent pas à la fois se concentrer sur la lecture d'un ouvrage et en même temps, je sais pas, répondre à des mails qui, elles-mêmes, sont en audio, par exemple. C'est aussi une fatigabilité face à ces attentions. C'est aussi une lourdeur administrative. Mes collègues en ont parlé. Les procédures d'accessibilité sont lourdes. Et donc d'aller demander si ce livre est accessible et puis ensuite d'en faire la demande s'il n'a pas été encore accessible. Tout ça, c'est un temps qui est incompressible et qui dépend des autres. Demander à un collègue ou à un auxiliaire de travail de lire une table de matière rend les choses accessibles. Pour autant, tout prend plus de temps. Et cette notion de temporalité spécifique aux personnes en situation de handicap, et là, pour le coup, toutes les personnes en situation de handicap, est à prendre en compte aussi, d'une part, pour fluidifier la réponse entre la réponse et les besoins. Par exemple, s'il y a quelqu'un concerné qui vient et vous demande d'avoir accès à un article et vous lui dites « Ah bah oui, mais il y a une procédure. » Oui, mais la procédure, elle est hyper lourde et puis par ailleurs, il est lancé sur d'autres choses. Et donc, pour avoir cette temporalité spécifique en tête permet aussi de fluidifier parfois l'accessibilité, pas au sens légal, mais au sens interactionnel du terme. Et
ça fait 10 minutes.
Super, parfait, ça me permet de réfléchir. Et ça permet aussi de, pour celles et ceux qui contribuent à la production des textes scientifiques, qui sont concernés aussi par des altérations visuelles et auditives, ça permet aussi de se rendre compte qu'effectivement, leur demander, comme vous pourriez le demander à un auteur ou une autrice, de produire quelque chose très rapidement, de manière très urgente, est parfois rendu impossible parce qu'il va faire face à plein de soucis d'accessibilité qui vont ralentir par ailleurs ses processus d'écriture, de relecture. Donc autant lorsque c'est pour contribuer à l'édition scientifique que pour en bénéficier, le CRIP time est toujours éprouvé. Et évidemment, le CRIP time ne s'arrête pas aux situations professionnelles. Le CRIP time est éprouvé dans toutes les sphères d'activité, donc les sphères familiales, les sphères domestiques, les sphères de loisirs des personnes en situation de handicap. Donc en fait, on ne peut pas leur demander de dépasser du temps de travail ou de travailler plus, parce qu'en fait, du coup, le creep time est aussi éprouvé dans les autres activités. Évidemment, ça, c'est toujours à l'écoute des besoins. Certaines personnes souhaitent ou peuvent, pour d'autres raisons ou d'autres facilités, dépasser sur d'autres temporalités ou d'autres sphères d'activité qu'ils traversent. Je voulais dire une dernière chose, et comme ça laissera plus de place aux questions. Oui, sur l'accessibilité, en fait, c'est pour conclure. Il me semble important de se rendre compte que c'est une question d'interaction avec les personnes concernées qui vont vous contacter, tant au niveau de la production, en prenant en question aussi des temporalités spécifiques qu'elles traversent, et en comprenant bien que le handicap, malgré on utilise beaucoup l'expression de personne en situation de handicap plutôt que personne handicapée. C'est pas un choix d'être politiquement correct. C'est vraiment un choix empirique d'une personne aveugle qui est en train de lire son livre en braille, par exemple. Elle n'est pas en situation de handicap à ce moment-là. Alors, elle mettra plus de temps peut-être qu'une personne qui lit en noir pour lire son livre, mais à ce moment-là, elle n'est pas en situation de handicap. Elle n'est en situation de handicap que lorsque la situation n'est pas accessible. Donc, vous avez le pouvoir de, en facilitant et en rendant accessibles des situations, d'arrêter des situations de handicap de manière temporaire dans la vie de personnes. Et c'est un pouvoir qui me semble quand même assez intéressant pour aller creuser et prendre du temps. Mais voilà, ça me semblait important de repréciser ce que c'était qu'une personne en situation de handicap. En fait, elle est en situation de handicap que en fonction de la situation et des conditions d'accessibilité de la situation. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Tout de suite, on peut laisser la parole à la salle si justement il y a des questions, des besoins de précision ou de complément.
Bonjour. C'était très intéressant. On est tous très sensibles à l'effort déployé. Après, je m'interroge sur la façon dont les choses ont été entreprises. On voit que vous avez démarré sur un modèle économique et une offre de marché éditoriale qui n'a strictement rien à voir avec le modèle économique et l'offre de marché des éditions publiques, qu'elles soient universitaires ou pas, et que donc on a l'impression qu'on rentre dans les cases a posteriori. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième qui en découle un peu, c'est que j'aimerais savoir quels sont du coup les éditeurs publics ou les représentants des éditeurs publics qui font partie de ces échanges réguliers dont vous nous parlez, notamment à l'ARCOM.
J'essaie de répondre. Pour la première question, je vais pas laisser la. Je vais tenter le coup, mais sinon Rodolphe Cédier complétera. Enfin, pour la première, je ne peux pas trop. Le texte est là, il y a des exemptions. Enfin, c'est pour bien comprendre ce que vous voulez dire en disant on rentre pas dans les cases. Vous faites référence, par exemple, à la taille des éditeurs et pour les motifs d'exemption, par exemple. C'est en ce sens. Il y a toujours des effets de seuil. À un moment donné, ils ont le. Oui. Oui, vous êtes plus petit. Plus petit.
Mais c'est pas qu'on est plus petit. C'est que le modèle économique est très différent et l'offre de marché est très différente. C'est une composante économique qui me semble avoir été un peu laissée de côté. Et du coup, le parallélisme est fait avec uniquement l'édition privée qui a une offre grand public.
Oui.
Donc une offre de marché différente et un aussi. Modèle économique différent, qui ne sont pas du tout ceux avec lesquels nous fonctionnons. Du coup, ces logiques que vous appliquez au monde de l'édition, elles me semblent très globalisantes et uniquement en expérience sur les retours que vous avez de l'édition privée, et pas du tout sur les nôtres. Enfin, après, on est des structures très différentes, mais on est tous dans l'édition publique ici. Et franchement, c'est ni nos modèles économiques, ni nos offres de marché. Franchement, c'est économiquement et au niveau de l'organisation, ça n'a rien à voir. C'est deux sphères différentes. Le mot éditeur ne doit pas réduire l'un dans l'autre. Voilà.
Alors, si le sens de votre... Je ne voudrais pas mal interpréter votre question. Si le sens de votre question, c'est que pour certains éditeurs, parce que les modèles sont différents, ça peut être plus compliqué de rendre des ouvrages accessibles, parce que c'est une charge importante, il y a le motif de charge disproportionnée, mais où je suis pas, enfin, je suis peut-être pas bien sûr de bien comprendre au final, ce serait quoi le problème pour les éditeurs que vous représentez? Ce sera trop compliqué de rendre les livres accessibles et donc
non, c'est une pas forcément. Je pense qu'il y en a certains de nous qui le font déjà et qui ont une prise de conscience comme ça, mais pas du tout sur les modèles que vous présentez. Et donc, après, mon autre interrogation, c'est quand vous dites « Ah ben, les logiciels et tout ça, on verra plus tard ». Le numérique, c'est d'abord de la technologie. Et comme l'a très bien dit Nathalie tout à l'heure par rapport à Platon, si on ne réfléchit pas avec les gens qui produisent ces logiciels, on va passer son temps à sauter d'un pied sur l'autre et à ne pas pouvoir avancer. Donc, commencer le travail uniquement avec les éditeurs sans prendre en charge tout ce qui est la technologie numérique en commençant d'abord par eux. S'ils nous fournissent pas des choses pour fonctionner, je vois pas comment on pourra le faire. Donc après, on est toujours dans de la débrouille. Ça, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre.
Alors, on verra plus tard. Disons que c'est
Voilà. Et puis l'autre, franchement, tout le raisonnement économique que vous avez est un raisonnement qui ne s'applique qu'à l'édition privée. Pas du tout à nos modèles économiques à nous, qui sont divers dans la salle, à mon avis, mais qui ne sont pas ceux de l'édition privée.
Ah, oui, effectivement. Enfin, tu veux peut-être compléter, Rodolphe.
Alors, comme on l'a indiqué au début, hein, tout ça découle d'un texte européen. Dans lequel, en fait, il y avait pas seulement, comme je l'ai expliqué, l'économie du livre, mais il y avait plein d'autres secteurs concernés. Et donc, on arrive à un texte qui est très globalisant et on n'a pas pu faire dans la dentelle. Moi, la question que je me pose, je ne sais pas si elle rejoint celle de Raphaël, mais quand vous dites que... Ce qu'on a mis en œuvre ne correspond pas à votre modèle économique. En quoi il ne répond pas à votre modèle économique? C'est un peu ça la question que je me posais.
Non, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Je me suis mal exprimée. Vous partez pour faire ces constats et ces prérogatives d'un modèle économique que vous pensez être le même pour tout le monde et qui est donc celui des éditeurs privés.
On parle d'un chiffre d'affaires.
Mais vous voyez,
pas d'un modèle économique.
C'est un modèle économique. Le chiffre d'affaires, c'est une notion purement économique. Or, on n'est pas à l'intérieur forcément de ce genre de modèle économique, selon les différents éditeurs publics.
Alors, après, je vais prendre ma petite casquette de juriste, mais en fait, au regard de l'Union, du droit de l'Union européenne, tous les opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, sont des opérateurs économiques.
Oui, mais bien sûr, voilà. Mais pas après, selon les mêmes modèles et pas avec les mêmes offres de marché.
Après, on a même dans l'édition privée, on a une multitude de modèles économiques. Et donc, comme je le disais, il nous paraissait impossible de faire des différences. Et en plus, ce n'était pas du tout l'objectif. On essaye d'emporter l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, on a des dispositions assez générales. Donc, peut-être qu'elles ne répondent pas à toutes les situations, mais en tout cas, je pense qu'on a quand même essayé de faire en sorte que, notamment pour les opérateurs les plus petits, les plus fragiles, qui ne se sentent pas obligés, enfin qui ne soient pas obligés d'appliquer les exigences de la directive, mais pour autant qu'ils puissent être invités à le faire. On met en place des choses comme j'ai expliqué pour essayer d'embarquer le maximum de monde dans l'objectif collectif.
Et le régulateur regarde à un moment donné, on regardera les questions éditeur, livre par livre, éditeur par éditeur, dans le sens où chaque fois qu'on est confronté à... Je vais prendre l'autre exemple parce qu'on fait aussi l'autre mission. On a aussi l'ARCOM mais aussi en charge, vous avez évoqué tout à l'heure la mission, l'exception handicap. Rodolphe Sellier, vous avez évoqué Platon rapidement. On travaille, parce qu'il y avait une question sur le sujet. On travaille, donc nous, l'ARCOM vérifie, on a la mission de contrôle de vérifier que les éditeurs déposent bien les fichiers à la demande des associations sur Platon. Donc on a des échanges réguliers avec la BNF pour vérifier effectivement si tous les éditeurs ont respecté le jeu. Quand un éditeur, la BNF nous dit voilà, tel éditeur, a priori ils ont eu tant de demandes, ils ont eu 17 demandes, ils ont déposé que 2 fichiers, on a une liste à la fin d'éditeurs, il y en a une quinzaine, enfin peu importe. Certains le font plus ou moins. On va rencontrer chaque éditeur individuellement. On va le rencontrer dans le cadre d'une audition avec les membres du collège de l'ARCOM en charge de cette mission pour poser la question. Pourquoi vous n'avez pas déposé les fichiers? Quels sont les problèmes? Est-ce que pour différentes raisons? Donc on n'est pas dans une application, je dirais, bête et méchante d'un texte globalisant, mais qui a le mérite déjà d'exister. Donc si des éditeurs parmi vous ont des questions spécifiques parce que vous êtes sur un modèle économique spécifique, ce qu'on comprend tout à fait, il y a une diversité de modèles et c'est tant mieux, on aura l'occasion, dans le cadre de contrôle, si d'aventure, en plus si par hasard il y avait des problèmes, peut-être qu'il n'y aura justement aucun problème, on pourra de toute manière échanger. Enfin, on est une autorité, il y a un numéro de téléphone à l'ARCOM pour... Non mais c'est vrai, on répond, enfin plutôt un courriel maintenant, quand même, parce qu'on est quand même numérique, mais on rencontre les gens, et on ne rencontre pas uniquement donc les éditeurs, on va dire les gros éditeurs dans le cadre du SNE, évidemment, parce qu'on rencontre les membres du SNE, parce qu'ils regroupent, je suis d'accord avec vous, c'est le gros modèle économique des représentants d'éditeurs, d'achètes, etc. Mais dans le cadre de l'exception handicap, on rencontre des tout petits éditeurs. Et on cherche, d'ailleurs certains, on les appelle, ils ne veulent pas nous répondre. Là, c'est l'inverse. Je peux vous assurer qu'on leur écrit, ils ne veulent pas nous rencontrer. Alors qu'on est, on est bienveillant, on est d'abord là pour comprendre, on n'est pas là pour dire ça ne va pas. Par contre, si on ne nous répond pas, la troisième fois, ça finit par nous énerver quand même. Parce qu'on est des gens gentils, patients, mais on aime bien que les gens soient polis et nous répondent en face. Non mais voilà, enfin, je le dis de façon sympathique, mais on aura des discussions. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça, on est vraiment ouvert et on prend le temps de discuter. On prend autant de temps avec les gros que les petits. Je pense qu'on peut, vraiment le dire. Ma collègue Clara Bédom, qui s'occupe de la mission Exception Handicap, acquiesce. On passe du temps avec tout le monde, à discuter vraiment avec tout le monde. C'est notre métier. Enfin, c'est notre rôle, plutôt. Il se trouve que c'est le métier qu'on fait.
Je vous propose de passer à la question suivante. En tout cas, merci, on a bien compris et on a entendu le message de rentrer en communication et de faire ce chemin dans un sens comme dans l'autre.
Moi, je voulais remercier Marion pour votre explication. Je trouve que pour nous, c'est vraiment une conscientisation extrêmement intéressante de voir justement la difficulté pour un chercheur ou une chercheuse, à la fois lecteur, lectrice, à la fois auteur, autrice. Et justement, ça me fait vraiment corroborer les assertions de Catherine, la précédente interlocutrice. C'est que moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est la priorité. Je veux dire, un an, ça va aller vite. 2025, ça va aller très vite. Et en fait, on a l'impression qu'on va courir tous les lièvres d'un coup, alors que finalement, il y a des priorités peut-être plus grandes que d'autres. Il est peut-être plus important de mettre à disposition, effectivement, aux chercheurs ou aux nouvelles générations de demain, le plus de littérature possible et le plus de contenu possible, plutôt que de mettre peut-être tout ce qui se trouve publié par l'édition de grand public alors que finalement, c'est peut-être moins prioritaire ou peut-être qu'il y a d'autres canaux. Il y a peut-être certains livres, effectivement, qui sont disponibles en livre audio ou en braille, etc. Tandis que, effectivement, donner la connaissance scientifique à la communauté scientifique pour faire avancer la science, ça, c'est quand même un des enjeux de l'Europe. Donc moi, je suis un peu étonnée que vous ne parliez pas du tout de priorité, de type de contenu ou de type de publication. On parle de publication au sens très, très large. Et effectivement, cette différence qui est faite entre les tailles d'éditeurs, pour moi, elle n'a pas beaucoup de sens. Parce que nous, on n'est peut-être pas des éditeurs avec un chiffre d'affaires ou pas reconnu, ou vous n'avez pas les données nous concernant. Mais par contre, peut-être que nos publications, elles sont vraiment très importantes pour faire avancer la science de demain. Donc je pense qu'il là, il manque peut-être une petite étape d'ici 2025.
Je ne sais pas s'il y avait des questions. Ouais.
Juste sur un mot, merci beaucoup. Non, je pense que c'est plus...
Non mais j'entends bien le message, encore une fois c'était très compliqué de prendre en compte toute la finesse de tous les secteurs qui étaient concernés par la directive. C'était vraiment hyper compliqué. En termes de priorisation, il n'y a pas de priorisation en fait. Tout ce qui sera produit à compter de 2025 devra être accessible. Il n'y a pas de priorisation. Ce qui est grand public, ce qui n'est pas grand public, tout devra être accessible, enfin répondre aux exigences de la directive. Et tout ce qui aura été produit avant, on a un stock qui est trop conséquent et donc on laisse le temps aux éditeurs de rendre accessible leur stock. On n'a pas pensé qu'il fallait prioriser. Pour nous, il fallait que tout ce qui sorte soit rendu accessible. Après, on a plus un travail peut-être sur l'adaptation dans le cadre de la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, où là, effectivement, pour le projet de portail national, si on veut que le portail national ait vraiment un intérêt pour les personnes en situation de handicap, il faut que non seulement on arrive à proposer l'offre des éditeurs, mais aussi proposer une offre d'édition adaptée aussi conséquente, là où les éditeurs n'auront pas répondu aux exigences de la directive. Et c'est peut-être là-dessus en fait qu'il y a un travail de priorisation, de voir là où les organismes qui adaptent devraient concentrer leurs efforts pour avoir une offre vraiment intéressante à proposer sur le portail national. Ça, c'est un travail que l'Institut national des jeunes aveugles est en train de faire. Ils sont en train de réfléchir à différents scénarios, qu'est-ce qu'il faut prioriser, etc. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il y a un sujet de priorisation, mais sur l'édition commerciale, on n'a pas priorisé, on a dit tout doit être accessible.
Juste pour répondre sur la priorisation, il me semble quand même important de faire une différence entre les demandes des organismes et donc qui serait en gros une pondération qui fait en fonction de la demande. J'ai une petite anecdote. Ça fait un petit moment, il y a 15-20 ans, je commence à me mettre au livre audio qui n'existait pas trop avant. Et donc, je commence à me renseigner sur les livres audio qui existent. Et à ce moment-là, il y avait très, 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 très peu de livres audio. Donc, les livres audio, c'est vraiment des livres lus par des comédiens qui pouvaient se retrouver à ce moment-là sous forme de CD. Et donc, je vais à la médiathèque, à ce moment-là, de Roubaix, qui avait une collection de livres audio assez importante. Et en fait, en livre audio, il n'y avait que, mais parce que c'était probablement la demande des organismes, la Bible. Comment accepter sa cécité ? Vraiment, hein ? Comment accepter sa cécité ? Tous les livres de Guillaume Musso, que j'ai du coup tous lus, parce que vraiment j'étais en manque de lecture, et Harlan Coben, je crois. Enfin, pour dire quand même qu'il y a effectivement, parce qu'il y aura peu de demandes sur, par exemple, l'accessibilité des livres scientifiques, parce que bah, il y a peu de gens déjà. Et pour autant, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, d'étudiants en situation de handicap visuel qui n'ont pas accès à ces livres et qui en ont besoin. Et non pas que je ne veux pas que Guillaume Musso soit pas rendu accessible, mais pour autant, effectivement, si on part d'une priorisation en fonction de la demande, le problème, c'est qu'il y a aussi les livres très 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 grand public qui vont être eux accessibles et ceux qui sont moins grand public qui ne le seront pas, quoi.
Une question de Valérie.
Oui, merci. C'est pour revenir sur la question de priorisation et notamment en lien avec les besoins utilisateurs. L'accès à l'information, quelle qu'elle soit, par qui que ce soit, dans n'importe quelle condition que ce soit, c'est un droit fondamental. La France a ratifié la Convention des Nations Unies qui garantit ce droit aux personnes en situation de handicap. Concernant la priorisation, je comprends bien que le livre numérique nativement accessible ne va pas répondre à tous les besoins spécifiques. Il y a certainement un socle, une base qui répondra au plus grand nombre, mais certains besoins spécifiques ne pourront pas être satisfaits. Donc là, effectivement, on peut s'articuler avec la chaîne de l'édition adaptée, c'est-à-dire le mécanisme de l'exception handicap au droit d'auteur. Mais là, en termes de besoins utilisateurs, ce dispositif, il répond à une demande individuelle. C'est une réponse individuelle à la demande d'un bénéficiaire. Et à ENS Édition, on a eu la demande par Platon d'un fichier qui était destiné à un thésard. L'adaptation a pris un an. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Il faut vraiment pousser la base accessible du nativement accessible parce que c'est pas une réponse satisfaisante. Et développer une édition nativement accessible, c'est une réponse collective de la société. C'est vraiment inclure un lectorat élargi aux personnes en situation de handicap et c'est pas une réponse individuelle qui prend beaucoup plus de temps en termes de priorisation, je ne passerai pas par là.
Oui, enfin, juste en deux mots, parce que je vous parle beaucoup de la directive et combien c'était compliqué en fait d'arriver à transposer de manière, on va pas dire intelligente, mais en tout cas la directive, parce qu'il y avait certaines dispositions qui étaient vraiment très étranges et notamment... L'un des critères qui est cité par la directive pour mesurer une charge disproportionnée, l'un des critères, c'est mettre en balance le coût pour l'opérateur économique et l'intérêt pour la personne en situation de handicap. Moi, ça, je ne sais pas faire.
Donc, là, je crois que Dominique Roux a démontré que Metop, en termes économiques, c'était bien rationalisé.
Mais pour à un moment donné... Enfin, peut-être pour compléter et pour élargir, c'est que aujourd'hui, alors déjà, si des livres devraient être accessibles, que vous le souhaitez, il va y avoir aussi déjà la possibilité de saisine de l'ARCOM individuellement pour vérifier pourquoi un livre n'est pas accessible. Et là, déjà, on pourra vérifier si l'éditeur devait le rendre accessible ou pas. Modulo, évidemment, ces contraintes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les règles du chiffre d'affaires, de la taille d'entreprise. Mais déjà, parce que bien sûr que des choses vont nous échapper au début. Quand on va se mettre en œuvre, ça va être pour vérifier l'ARCOM dans l'émission de contrôle, tous les être sûr de bien d'oublier aucun livre publié. C'est sûr qu'au début, on en oubliera. Enfin voilà, faudrait avoir un peu de tolérance sur la mise en œuvre de notre mission. Au début, on met pas en œuvre des missions tous les jours. À l'ARCOM, même s'il y en a assez régulièrement ces derniers temps. Là où je voulais venir, c'est que ça a été évoqué tout à l'heure par Rodolphe Sellier, c'est que la directive, elle date de 2018, transposée en 2019. Entre-temps, il y a énormément d'évolutions technologiques, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir par exemple, avec l'intelligence artificielle pour, par exemple, rendre accessibles éventuellement des textes, pouvoir lire des textes automatiquement. Il y a deux ans, il y avait rien de pareil, personne n'en parlait. Aujourd'hui, on voit que c'est assez simple. Enfin, j'ai fait l'expérience moi-même avec Google Lens, vous photographiez une bande dessinée, vous traduisez les bulles d'une BD en anglais, par exemple. Et ça, c'est gratuit. Donc, il y a énormément de choses qui vont se développer, je ne dis pas que ça va tout résoudre, hein, mais je crois que il y a une table ronde qui va parler aussi d'intelligence artificielle demain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a peut-être des blocages, des choses qui sont plus complexes à faire ou qui concernent effectivement des livres pour peu de personnes qui aujourd'hui rentreraient par... qui sont prises en charge, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par exemple l'exception handicap. Et donc, il faut un an à quelqu'un dans une association pour le rendre accessible. Peut-être que dans un an ou deux, ce ne sera absolument plus le cas. Et ça, on ne peut pas en présager. Et d'ailleurs, nous, c'est quelque chose dont auquel on pense beaucoup à l'ARCOM, c'est que, on va dire un peu dans nos lignes directrices de jurisprudence, se dire, bon, ben ça, c'est vraiment une charge disproportionnée, ça, c'est pas accessible. Rien ne doit être définitif, parce que ce qui est une vérité aujourd'hui ou une impossibilité aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans 3 ans. Et personne ne peut présager de ce qui sera possible de faire, et surtout à un coût moindre, dans 3 ans. Ça, c'est pour avoir un discours quand même un peu d'optimisme, qu'a priori, on devrait avoir plutôt des coûts marginaux décroissants, je pense, pour la mise en accessibilité des ouvrages, même complexes. Enfin, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, c'est un point que je voulais souligner à un moment donné.
Alors, je vous propose que sur cette note d'optimisme, justement, on clôture cette table ronde. Et voilà, je vous remercie de l'ensemble des intervenants qui ont bien accepté de participer.
Merci.